Ikondongo Mukoko qui nous chantait Oya sur Radio Okapi. Oscar Diabanza Matungwa est musicien, griot, concepteur et metteur en scène du spectacle Musique Croisée. Il a dirigé le Ballet National pendant une longue période. Il a également réalisé des tournées à travers le monde avec d'autres groupes de la place. Bakake, interprété par Mpongolov, est parmi ses compositions. Oscar Diabanza est aussi un grand arrangeur et c'est l'invité d'Okapi Jeune aujourd'hui.
Okapi Jeune, parole à l'invité.
Je ne serai pas seule à dialoguer avec notre invité. Avec moi, Yoka Lié Moudaba, professeur à l'Institut National des Arts. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors professeur, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce qu'est la rumba?
Étant donné que nous avons un grand spécialiste avec nous ici, peut-être serait-il préférable que ce soit lui qui répond. Moi, je suis un grand danseur de rumba, je peux vous garantir, mais je suis pas sûr d'être un bon définisseur.
Alors, Oscar, vous avez la parole.
Ben, rumba, d'abord, le terme peut paraître ambigu dans notre culture, parce que rumba, c'est vraisemblablement d'origine latine, espagnole ou portugaise, en tout cas. Alors, la rumba serait et d'origine antillaise, caraïbéenne, comme on dit. Donc, c'est déjà, à ce niveau-là, une fusion entre les cultures d'esclaves et les cultures des marchands d'esclaves, si j'ose dire.
Oui.
Donc, les cultures portugaises et espagnoles. La rumba est donc née de la fusion des musiques africaines des esclaves et des musiques occidentales espagnoles ou portugaises, déjà. Alors, donc, rumba, vu par nous ici au Congo, par exemple, a une dimension très autochtone. Il y a très peu de gens qui s'imaginent que c'est une musique d'importation. C'est un terme d'importation. Parce qu'au-delà, rumba ne représente pas seulement une musique. Rumba est une culture. Déjà, le fait que c'est une fusion entre deux événements majeurs, à savoir l'esclavage et la pratique de l'esclavage et l'esclave lui-même. Alors, la bonne question que moi je ne pose pas, c'est vous qui devez éventuellement la poser, c'est comment on en est arrivé là?
Tout à fait, je vous la pose alors.
Comment on en est arrivé là? Ben, Kinshasa, le Congo, à l'époque, était une colonie belge.
Oui.
On se serait attendu à ce que la colonie résonne des musiques occidentales, mais belges plutôt. Ça aurait été plus ou moins logique. Mais seulement voilà, Kinshasa résonne d'accent latino-américain. Il faut aller chercher la réponse dans la configuration même de cette colonie, de cette ville de Kinshasa. Si vous observez la ville de Kinshasa, vous verrez bien que c'est une sorte de cité organisée, compartimentée. Vous aviez, au-delà du boulevard du 30 juin, au boulevard Albert Ier à l'époque, la cité des Blancs, et puis vous avez l'avenue du commerce, l'avenue Charles de Gaulle, la cité des ce que moi j'appelle les presque blancs, les pseudo-blancs, donc portugais, grecs, italiens, tout ça, qui vendaient du poisson au noir et tout ça. Et puis, au-delà, il y a les noirs. Alors, la rumba est arrivée ici, là, dans les magasins, dans les premiers studios d'enregistrement, mais des studios de grecs, de portugais et tout et tout. Donc, les noirs n'avaient de contact qu'avec ces blancs-là, qui étaient autres que des Belges. Et les Belges étaient très loin de cette rencontre. Donc en fait, la colonie n'a ni organisé ni favorisé cette rencontre. Donc elle s'est faite sans le Belge. Donc le Congolais va rencontrer la rumba par les marchands méditerranéens qui faisaient des affaires. Il faut dire qu'ils avaient l'habitude de rencontrer les Noirs.
Oui.
C'est déjà eux qui pratiquaient le commerce triangulaire, le commerce des esclaves.
Oui.
Yeah, donc c'était déjà les Portugais, les marchands portugais, qui achetaient des esclaves et allaient les revendre aux États-Unis. Donc c'est, par l'ironie de l'histoire, ces mêmes marchands qui devaient avoir l'habitude de rencontrer des Noirs qui commerçaient à Kinshasa avec les colonisés de Kinshasa.
Oui.
Donc c'est une sorte d'accident de l'histoire qui a fait que le Congolais va plutôt rencontrer la rumba au lieu de rencontrer une autre musique. Évidemment, le Congolais avait le bonheur de rencontrer une musique de blanc. Parce que les presque blancs étaient quand même des blancs, ils n'étaient pas noirs. Donc, mais c'est eux qui faisaient le commerce, donc c'est eux qui ont fait découvrir dans les premiers studios d'enregistrement qui ont existé à Kinshasa, dans ce périmètre de l'avenue du commerce aujourd'hui, où les Congolais avaient eu le privilège, la surprise d'entendre une musique qui était cadencée.
Ouais.
C'était ça la surprise.
Tout à fait.
Ils étaient loin de s'imaginer quelle était cette musique-là.
Elle ressemblait beaucoup à leur sensibilité, à leur propre rythme intérieur.
Et pourquoi? Pour une bonne raison. Parce qu'en fait, c'était leur musique, c'était la musique des esclaves.
Oui.
Mais ils étaient loin de l'imaginer. Mm-hmm. Ils sont tombés amoureux de cette musique-là, amoureux fou. Et ça fait, et ça provoque un tel engouement que les Noirs commençaient à pratiquer, à aimer la musique des Blancs, entre guillemets, la rumba.
Oui. En tout cas, c'était très clair, je reviendrai à vous tout à l'heure. Alors, professeur, dites-nous, à quand remonte le tout premier studio d'enregistrement musical de l'ancien Congo belge?
Ils promettent ça à la fin des années 40. Ce sont des studios qui s'appellent Ningisa, qui s'appellent Opita, qui s'appellent Ngoma. C'est pratiquement à la même période qu'il y a eu cette effervescence de ce qu'on appelait écuries. Hein. C'était des écuries parce que au sein des studios, il y avait un aréopage de musiciens qui gravitaient et qui donc jouaient pour cette écurie-là.
Mmh. Et la plupart des Congolais disent que le tout premier studio appartenait à un blanc, est-ce vrai?
Mais c'est ce que je viens d'expliquer, Oscar.
Mmh.
C'est que c'est justement ces blancs qui n'étaient pas blancs pour nous.
Oui.
En fait, les Grecs, les Portugais, parce qu'on les considérait peut-être trop proches de nous, et donc on disait qu'ils n'étaient pas belges, qu'ils n'étaient pas blancs. C'était Papa Dimitriou.
Papa Dimitriou.
C'est Papa Dimitriou, oui, qui était non seulement le premier commerçant à lancer ce studio, mais aussi une sorte de mécène. Parce que finalement, les premiers musiciens étaient des salariés à l'intérieur de ce studio-là.
Mm-hmm.
Le Ningisa, Opita, Ngoma.
Et il était de quelle nationalité?
Grec, il était grec. Oui, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Benatar, n'est-ce pas, qui était israélien. Donc, comme il dit, c'est un peu ces méditerranéens-là,
mm-hmm,
habitués au commerce, mais habitués aussi au contact avec les Noirs qui ont pu lancer le commerce de la musique, mais aussi l'animation musicale.
Et professeur, dites-nous, où se trouvait la première maison d'édition de la musique?
Il faut situer ça autour de ça s'appelait à l'époque l'avenue Charles de Gaulle.
Mmh.
C'est autour de l'avenue du commerce, un peu du côté du zoo, le zoo actuel. C'est un peu par là, du côté du zoo, du côté de Basile, les pompes funèbres Basile. C'est dans ce périmètre-là, hein, où se trouvaient les premiers studios d'enregistrement.
Mais qu'est-ce qu'on y trouvait comme matériel? C'est pratiquement les mêmes matériels qu'on trouve aujourd'hui, ou il y avait autre chose et actuellement une sorte de performance?
Je ne sais pas, peut-être Oscar pourrait répondre à cette question technique.
Mais technologiquement, nous sommes dans les années 40.
Mmh.
Alors vous imaginez qu'on n'a pas le matériel que nous avons aujourd'hui.
Tout à fait.
Hein? Donc nous sommes à l'ère du phonographe.
Mmh.
Et dans les studios, il y avait des sortes d'enregistreurs phonographes qui gravaient directement les disques. C'était impressionnant parce que on enregistrait et ça gravait directement sur la matrice et c'est avec ça qu'ils imprimaient les disques. Nous sommes dans les années 40, donc nous sommes dans la vieille technologie des instruments des années 40.
C'est-à-dire le phono avec les grosses plaques là-bas.
C'est ça, c'est vrai.
Ça tombe pour que ça casse.
C'est ça.
Oui, vous comprenez tout mon vieux.
Kaka avec Eddie Mboyo, une chanson tirée de son album Emana. Et à travers cette chanson, on retrouve la touche de Oscar Diabanza. On va y revenir. Comme je l'ai dit au début de cette émission, Oscar Diabanza est notre invité. Alors, Oscar, vous le connaissez sûrement avec le professeur, hein, ça c'est sûr.
Oui, bien sûr, on se connaît. Alors, ne serait-ce que parce que à un moment donné, j'ai dirigé le théâtre national, et il y a la division du ballet national dans le théâtre national, et c'est Diabanza qui s'en occupait.
Alors, monsieur Diabanza, parlez-nous de vos débuts dans la musique, parce que vous êtes avant tout musicien, c'est ça?
Ben, les débuts, c'est difficile à définir en Afrique, hein, des débuts d'une carrière, parce que vous savez que les enfants, ils sont toujours en train de tripoter sur des instruments de musique. Mmh. Donc, les débuts ont été plus ou moins spontanés, je crois. Hein. Il y avait une guitare à la maison, très tôt, vers le 6-7 ans, je crois, que je gratouillais déjà un peu de guitare. Mmh. Mais peu de temps après, c'est dans une chorale, une troupe qu'on appelait à l'époque Chem Chem Yeto, qui était le fait d'un prêtre hollandais. Donc, une troupe qui aura beaucoup d'influence sur l'évolution du spectacle dans notre pays. C'était une troupe d'enfants chanteurs et danseurs. Donc c'était déjà une ébauche de ce qui va devenir ma carrière plus tard. Alors j'ai dû rencontrer des artistes, la grande Abeti Masikini, la chanteuse, Eti Somba un peu auparavant, il y a eu Miss Bora, et puis il y a eu l'épisode de Pongolo finalement qui va marquer un peu ma vie. Il faut dire que je n'ai pas fait une grande carrière comme musicien, hein. Et ma carrière je vais la faire plutôt au théâtre national, au ballet national. C'est ainsi que les gens se disent toujours, oui mais il n'y a qu'une seule chanson, il y a une seule chanson qui a été éditée par mon ami Pongolov, c'était plus une amie.
Oui.
Donc voilà, il y a eu cette rencontre avec Pongolov, et puis après est venu l'épisode de Ballet National, où j'ai rencontré André. André était le boss, le patron du grand théâtre national Mobutu Sese Seko.
Oui, voilà.
Ouais, c'était la grosse institution. Hein. Nous sommes à l'époque du grand mécénat d'État, quand l'État s'occupait de promouvoir directement l'action culturelle. D'ailleurs, mon premier voyage en Europe, ça sera le fait du grand Mobutu Sese Seko, parce que nous avons été en tournée en Belgique avec Eti Somba et tout et tout. Donc, une carrière qui va durer 25 ans au Théâtre National, et singulièrement au Ballet National, où je m'occuperai exclusivement de la section musique d'abord. Ce n'est qu'à la fin que je deviendrai responsable directeur de cette troupe de ballet. Voilà, donc ma carrière se décline un peu en ces étapes-là. Elle commence par un bricolage de guitare et se poursuit dans des orchestres de femmes. Singulièrement, je ne travaille qu'avec des nanas, j'ai travaillé avec un mec. Et puis, cette carrière s'est confirmée dans au sein du Théâtre National Mobutu Sese Seko et Ballet National.
Ouais. C'est important hein, que vous puissiez nous le dire, parce que Okapi Jeune, c'est une émission consacrée aux jeunes, et c'est, je pense que c'est important que la jeunesse congolaise apprenne à connaître ce genre de choses. Alors, dites-nous, Oscar, vous avez récemment assuré la direction artistique du spectacle Musique Croisée, présenté lors du Festival Culturel Yambé en Belgique. Parlez-nous de cette belle expérience.
Une expérience merveilleuse, parce que belle, le monde est passé fort. Parce que Yambé n'était pas seulement l'incarnation de, disons, de la conclusion d'un parcours. Le parcours que je viens de dénoncer là, la longue carrière au Ballet National, tout ça, la recherche au niveau des arts de spectacle. Et Yambé aura été l'occasion de rassembler dans un spectacle que nous avons appelé Musique Croisée. Et dans ce spectacle, il y a eu des aspects percussions, musique traditionnelle, instruments traditionnels, musique moderne avec des guitares, des batteries, il y a eu des chanteuses, des danseuses, donc un spectacle total et un public idéal, joué dans des conditions extrêmes, donc d'efficacité du point de vue scénographie. Une salle comme la salle du Théâtre National de Bruxelles est une salle mythique, il faut le dire. C'est une salle avant-gardiste, elle est très moderne. Mais aussi le théâtre à Verviers avec une sonorité exceptionnelle au pays de Charleroi. Nous avons fait le tour de la Belgique dans les meilleures salles avec une troupe de rêves. Donc Yambé aura été l'expérience absolue, je crois. C'est l'expérience ultime avant de penser peut-être à me retirer de la scène. Quoi.
Sans compter que il a pu mettre ensemble des vedettes comme Goubal, comme Lucas, comme Marc Mataï, comme Kondikono,
Edimboyo,
etc., qui sont des styles tout à fait différents, mais qui finalement ont pu donner une même trame et une harmonie tout à fait exceptionnelle et innovée.
En parlant de musique, je vous propose d'écouter à vous, en fait, je propose à vous et aux fidèles auditeurs de Radio Capi qui nous écoutent en ce moment, Mastaki dans Angalini.
Wango jere anini kuwasaidia katika ukulima ya watu wachamu wamewapatia maisha magumu. Ungeni mikono, erafanye mbio.
Dans Angalieni, vous avez sûrement reconnu cette chanson, M. Oscar.
Oh oui, mais Masaki, c'est encore une particularité de la, la richesse culturelle de notre pays, hein, dans la diversité. Masaki est du Kivu. Donc, c'est cette guitare qui descend droit, tout droit des montagnes du Kivu et qui résonne comme cet instrument particulier au pays des Grands Lacs, cette sorte de harpe qu'on retrouve un peu dans le Kivu, le Rwanda et tout ça. Et c'est pas par hasard que Masaki, lui, égrène aussi les accords comme ça. Donc, il a un style qui s'apparente à. Alors, il vient évidemment à Kinshasa s'enrichir avec toutes les influences. Masaki est très jazzy. Il a participé à beaucoup d'ateliers de rencontres dans le cadre de Wallonie-Bruxelles, notamment. Et puis, il a été, c'était normal qu'il aille triompher à Yambi et en Belgique. Et tout ça. Donc, ça, c'est Masaki.
Ouais. Alors, Oscar, racontez-nous comment s'est passée cette rencontre avec les artistes en parlant de musique croisée. Hein. C'est vous qui allez vers les artistes, c'est plutôt eux qui viennent vers vous.
Bon, écoutez, c'est difficile à dire parce que je crois que les musiciens fréquentent certains espaces. Wallonie-Bruxelles, par exemple, est un espace ouvert aux musiciens. Alors, beaucoup d'artistes ont l'habitude de fréquenter les activités de Wallonie-Bruxelles. Il faut dire aussi que Wallonie-Bruxelles est très curieux. Elle s'en va de par la République à Kisangani, à Lubumbashi, partout, voir un peu ce qui s'y passe. Donc il y a eu une sorte de rencontre mutuelle entre musiciens et organisateurs. Ainsi, finalement, certains talents se sont imposés par rapport à d'autres. C'est ce qui a un peu contribué à ce croisement. Comme le terme l'indique d'ailleurs, musique croisée, est une rencontre pas forcément naturelle entre des genres musicaux qui n'ont pas forcément l'habitude de évoluer ensemble.
Tout à fait.
Regardez ces tam-tam de Tutangoma, le groupe de percussion. C'est un genre très particulier et que les jeunes connaissent très peu, voyez-vous, comme genre musical. Mais je pourrais confirmer que c'est l'un des genres les plus spectaculaires et qui a le plus d'emprise sur le public en Europe, par exemple, et ici aussi. Donc, il y a ce jeune Edim Boyo, qui est finalement un jeune de quartier, banal à Kinshasa, comme on trouve, qui utilise des xylophones fabriqués avec des matériaux qu'il peut trouver dans la de récupération. Parce que vous imaginez qu'à Kinshasa, on ne peut pas trouver des calebasses pour fabriquer des xylophones.
Ça, c'est,
Mais il connaît le xylophone de par sa culture. C'est ça qui est intéressant, l'intégration culturelle, même dans des centres urbains. Il ne faudra pas que les jeunes pensent que ce qui est culture est le fait des vieux, des villages. Donc à Kinshasa, les jeunes devaient aussi jouer beaucoup de xylophones. Et Dimbo joue du xylophone, il joue de la samba, qu'il fabrique avec des matériaux de récupération. Donc le croisement c'était aussi ça, mais c'était aussi le griot Ikondongo. Celui-là c'était un authentique griot tribal de sa tribu, des Bambunda. Évidemment un griot qui a derrière lui 30 ans de ballet national, il est un peu évolué si on peut le dire. Mais ce griot-là, dans le spectacle de musique croisée, vous l'avez vu certainement, est capable de faire des incantations tribales, mais en même temps de jouer dans un orchestre de jazz finalement, parce qu'il s'est fait accompagner par les guitares, la batterie, la basse et tout et tout. Donc cette musique-là, en fait, n'a aucune limite. Ça, c'est le fait tout simplement d'un arrangeur. Un bon arrangeur peut l'arranger à toutes les sauces.
Mmh.
Voyez-vous.
Mmh. Alors, Oscar, revenons à la rumba. On dit que la rumba est un esprit. Et qu'il y a plusieurs anecdotes hein, qui tournent autour. Il y a l'histoire de Mami Wata, des sirènes. Qu'est-ce qui se passe au juste?
Oh, ça, c'est l'ambiance.
Si c'est continue, que la rumba est partie prenante de la phase d'urbanisation.
Oui.
Mmh. C'est quand les villes s'installent, que les tribus vivent en promiscuité,
oui.
Des tribus venant de partout, et créant une ambiance de promiscuité, mmh. Mais aussi
dans les cités d'octroi.
Dans les cités d'octroi. Et la rumba s'installe comme loisir, mais aussi comme discours nouveau. Pour une civilisation nouvelle qui se crée autour de la colonisation.
Ça, c'est l'esprit rumba. Parce que la rumba, en fait, c'est l'élément qui a plus ou moins fédéré les tribus. Il faut dire que les tribus se protègent et se protégeaient. La cohabitation n'était pas toujours facile. Mais quand est apparu cet élément, soi-disant étranger, mais qui a pu mettre tout le monde d'accord, cet engouement. Nous savons maintenant, c'est parce que c'est le fait que, en fait, ce n'était qu'un juste retour des choses,
oui.
Que la rumba venait, revenait dans son berceau d'origine. Voyez-vous. Alors, l'état d'esprit rumba, le mode de vie rumba, c'était le début de cette vie de cité qui est Kinshasa. Une vie, une cité qui foisonnait d'histoire.
Mm-hmm.
La légende de Kinshasa est tenace, il y avait des personnages très colorés. Mami Wata, c'est cette dame, cette sorte de sirène que l'on voyait, les gens juraient l'avoir aperçue,
mmh.
En tout cas, prendre son bain de milieu clair de lune, mmh. Ici à Kintsuka, au bord du fleuve.
Mmh.
Personne ne l'avait vue, on peut en douter.
Mmh.
En tout cas, tout le monde, tous les promeneurs de nuit, pourraient jurer l'avoir vue. Mais il y avait Satongé.
Pas seulement les promeneurs de rue, dans des écoles aussi. Il y avait une rumeur qui courait, qu'il y avait les craies qui montaient, qui s'écrivaient, qui écrivaient Mami Wata, sans pour autant qu'on le voie.
Exactement. Mais il y a eu Satongé, ce personnage qui avait une jambe, un bras,
ouais.
une moitié d'homme. Il avait vu, mais il existait. Ouais. On l'a situé, Nazamba Saint-Joseph, dans la forêt de Saint-Joseph.
Il y avait Kinshasa,
un géant.
Mmh.
Et il ne fallait pas trop se risquer dehors la nuit parce qu'on risque de rencontrer un géant. Voyez-vous.
Mmh.
Et
mmh.
Puis il y a eu Mundele Ngulu, littéralement blanc cochon, c'est-à-dire un éleveur de porc, dont la légende disait qu'il avait une lampe torche et que s'il vous rencontrait la nuit, il vous torchait et vous transformait en porc et le lendemain, vous étiez vendu comme jambon.
Mmh.
Et ça, c'est Kinshasa et mmh. Tout le monde y croyait. Et on dansait ça. Mais il y avait Marie-Louise, il y avait des belles légendes aussi.
Ouais.
Ça, c'est la pure poésie, une histoire d'amour. Voilà une dame qui était morte, mais qui ne voulait pas rester au paradis, et qui revenait tous les soirs, semble-t-il, là où Wendo chantait. Parce que Wendo l'avait immortalisé dans une chanson qui s'appelle d'ailleurs Marie-Louise. Et quand Wendo entonnait cette chanson, c'était la pagaille.
Ouais.
Parce que les gens redoutaient que Marie-Louise ne vienne jusqu'au bar écouter cette chanson-là.
Mmh.
Et les noctambules de l'époque ont confirmé que Marie-Louise, effectivement, apparaissait. Elle était enterrée au cimetière de Kasavubu,
oui.
Donc là, et comme il y avait un grand bar à côté, où les musiciens jouaient, voilà, donc dès qu'on chantait la chanson, il y avait Marie-Louise. Marie-Louise, Satongé, Kisasa, Mami Wata, Mundele Ngulu, ça c'est un peu l'ambiance rumba,
oui.
Parce que tout ça est lié à la rumba, pourquoi? Mais parce que les noctambules vont dans les bars,
tout à fait,
danser
oui.
La rumba, et c'est pour ça que, par conséquent, mais voilà, il rencontre des personnages qui créent réel ou pas réel. Voilà, c'est un peu ça l'histoire de Kinshasa.
Oui. Alors là, je crois que la jeunesse a plus ou moins compris. Moi, par contre, j'ai bien compris. Alors, monsieur Oscar Diabanza, vous avez composé pour plusieurs artistes. Hein? Entre autres, Pongolov. C'était en quelle année?
Oh, Pongolov, je n'ai pas vraiment composé pour elle, hein, parce que ça, l'anecdote aussi, il faut dire.
Ouais.
Oui, encore une. Parce que c'est une chanson que André connaît Sophie Laila, avec qui je travaillais à l'époque. Mm-hmm. Donc c'est une chanson qui était enregistrée à l'Arena PEC et tout ça. Mm-hmm. Et Pongolov, qui était une amie d'un cercle qu'on fréquentait, tu vois encore les Luntadila, le cercle de ces journalistes, cette jeunesse qui à l'époque animait la Téléstar, Radiothon, c'était une époque là. Mm-hmm. Donc il y avait cette rencontre avec Pongolov qui est tombé raide devant cette chanson, dire non, tant pour moi je chante cette chanson là. Voilà, donc il y avait une ambiance musicale, on faisait beaucoup de rencontres, il y avait beaucoup de créativité.
Oui.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup plus travaillé au ballet national pour le ballet. Et là, j'ai composé le ballet Limangando, j'ai composé le ballet Lokolé, dont on parle très peu, et il y a eu le grand Lianja, où j'ai créé la musique, il y a eu un Kenge, etc. Oui. Donc il y a eu beaucoup de créations artistiques dans le cadre du spectacle.
Mm-hmm.
Oui, oui. Et très peu de compositions de chansons, en fait.
Oui. C'est très intéressant. Le temps nous fait défaut. On est malheureusement obligé de nous limiter ou de nous arrêter par là. Monsieur Oscar était l'invité d'Okapi Jeune aujourd'hui. Alors, un message à adresser à toute la jeunesse congolaise qui vous écoute en ce moment.
Eh bien, que les jeunes appréhendent toutes les formes de artistiques, quoi. Il n'y a pas de limite à la création. C'est-à-dire que les jeunes utilisent de plus en plus d'instruments qui pourraient trouver à leur portée des likembes, des xylophones, et enrichissent un peu la créativité musicale, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Parce que nous commençons à devenir un peu à court d'inspiration. Mm-hmm. On regarde les orchestres avec les
guitares,
c'est une monotonie incroyable, alors que le pays s'y regorge d'une panoplie illimitée d'instruments originaux.
Mm-hmm.
Voilà. Donc ça, c'est le message vraiment en direction de la jeunesse, quoi. Ne pas avoir de complexe, utiliser nos instruments qui valent bien tous les autres instruments.
Alors, quelque chose à ajouter, professeur? Un message?
Mais le message, c'est que la musique adoucit les mœurs. Mais vous avez compris que la rumba a fédéré les cœurs. Et donc, nous sommes là dans une période où il faut rappeler ces choses-là.
Mm-hmm.
Que la musique doit unir. Que la musique doit fédérer les cœurs. Ben, la musique doit raccommoder les blessures, comme on dit ici chez nous.
La musique doit unir les cœurs, la musique doit raccommoder les blessures. Parole du professeur. Alors, professeur, le prochain rendez-vous?
Dans 15 jours.
Dans 15 jours.
Tous les 15 jours, nous serons fidèles au rendez-vous.
Tout à fait. Je rappelle que tous les 15 jours, ensemble avec le professeur Yoka, nous recevrons un artiste pour vous, fidèles auditeurs de Radio Okapi. Et dans 15 jours, ça sera qui?
Nous pensions prendre le vieux maître Toro pour garder la chronologie.
Mm-hmm.
Nous prendrons Bombenga.
Bombenga.
Qui en soi déjà est un mythe.
Mm-hmm. Ok, d'ici là, portez-vous bien, fidèles auditeurs de Radio Okapi, et n'oubliez pas, le rendez-vous est pris dans 15 jours pour raccompagner nos invités. Je propose cette belle mélodie de Pongolov qui nous chantait Diamant. Yeah.